À la fin de l'année dernière, il a fermé le Beverley. On n'a pas beaucoup parlé. Pourtant, c'était le dernier cinéma porno de Paris. Alors, ça peut paraître anecdotique, c'est vrai. La fermeture du Beverley, vous allez me dire, c'est la loi du marché. Alors, d'Internet, quel est l'intérêt d'aller dans un cinéma pour voir ça? Mais quand même, avec la retraite de son très cinéphile propriétaire qui comparait son cinéma à une Madeleine de Proust et qui parlait de formats de 35 mm et de films du passé, une page s'est quand même tournée. Il y a 40 ans, il y en avait une centaine en France. Aujourd'hui, il n'y en a plus des cinémas porno. Je pense à la devanture du Beverley, pas si discrète, avec le mot cinéma en néon rouge sang. Je pense au guichet, tarif unique à 12 € et au Kleenex qu'on pouvait acheter parce qu'il y a des clients, disait le propriétaire, qui avaient l'alarme facile, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense aux autocollants, toutes sortes est définitive et puis strictement interdit aux moins de 18 ans. Et puis au mur de pierre à l'intérieur, au fauteuil en sky rouge, pas trop sale, pas trop collant, à la lumière, au grand écran blanc, la séance pouvait commencer. Vous vous souvenez ?
Boomerang, spécial Cannes.
J'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau.
France Inter, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quelle expérience à mon invité aujourd'hui des salles de cinéma interlope, lui, dont l'univers onirique, fantasmatique et érotique avait déjà enchanté le Festival de Cannes il y a 5 ans, lors de la présentation à la Semaine de la Critique de ses Rencontres d'après minuit. Son deuxième long métrage, Un couteau dans le cœur, est présenté ce soir en compétition, une histoire de passion entre une réalisatrice de porno gay jouée par Vanessa Paradis et sa monteuse à la fin des années 70 sur fond de meurtre commis par un tueur masqué. Bonjour Yann Gonzalez.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qui se passait avant toute chose pour vous d'unique dans un cinéma comme le Beverley ?
Moi je l'ai pas vécu cette période, mais du coup je la fantasme comme un fou. J'ai l'impression qu'il y avait comme un danger dans ces salles de porno, une espèce d'électricité comme ça qui s'est perdue. Aujourd'hui c'est safe, c'est une salle de cinéma. Et moi j'avais envie de retrouver ça. J'ai envie de retrouver cette atmosphère un peu déviante, un peu étrange, où tout pouvait arriver dans une salle de cinéma. C'était la vie et le cinéma mélangés.
Je me suis demandé, en préparant cette émission, est-ce que vous êtes pour moi l'exemple du cinéphile, votre plus belle séance de cinéma en tant que spectateur de toute votre vie, vous vous souvenez ?
C'est peut-être une de mes premières séances cannoises. Je pense que c'était la projection de Twin Peaks. J'avais 15 ans, parce que moi je suis d'Antibes. Donc voilà, je mendiais des places comme beaucoup de jeunes cinéphiles à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait. Et j'en ai trouvé une au dernier moment avec deux amis, et voilà, j'étais un grand fan de David Lynch déjà.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Twin Peaks sur grand écran, c'était inouï quoi.
C'était le grand écran ? C'était le grand spectacle ?
C'était le grand spectacle, c'était la joie, c'était la jouissance. C'est ça le cinéma.
Ça n'arrive presque jamais, ça ?
La jouissance, ça arrive de moins en moins, mais peut-être parce que je suis devenu un spectateur blasé. Mais
devant les films français.
Je jouis de plus en plus dans la vie, de moins en moins au cinéma.
Par exemple. Yann Gonzalez, vous êtes cinéaste, vous êtes devenu coprésident de la Société des réalisateurs de films, mais on vous a également connu comme critique. Et notamment pour vos positions assez tranchées sur le cinéma français. Aujourd'hui, le cinéma français, il continue de vous décevoir ?
Non, pas du tout. Je pense que c'est devenu, c'est encore un laboratoire en fait, un laboratoire passionnant avec plein de choses différentes. Il y a une ouverture. On est un des rares cinémas en Europe à avoir cet éclectisme. J'ai l'impression que voilà, un film comme le mien, par exemple, peut-être qu'il y a 10 ans, il aurait été impossible à produire. Et aujourd'hui, j'ai réussi à trouver avec mon producteur Charles Gibert, on a trouvé 2,5 millions pour le faire, et c'est inouï, parce que c'est quand même une histoire abracadabrante au départ.
Pour autant, votre sentiment d'ennui passé, il était lié à quoi ?
Je pense à l'omniprésence du naturalisme, qui aujourd'hui s'est un petit peu estompé, parce qu'il y a plein de contre-propositions. Je pense au cinéma de Bertrand Mandicot, que j'adore.
Qui est un acteur de votre film, d'ailleurs.
Oui, qui est un acteur de mon film. J'ai l'impression que l'imaginaire a de plus en plus une voix, aujourd'hui.
Trop de formatage aussi. Il y avait trop de formatage.
Ouais, il y a trop de formatage, toujours un peu les mêmes acteurs. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux visages, de nouveaux réalisateurs qui émergent, et ça fait un bien fou.
Alors comment on fait pour défendre cette audace, cette liberté artistique, l'avènement de nouvelles formes aussi pour proposer un cinéma qui sorte un petit peu des sentiers battus, un cinéma plus libre en fait, plus diversifié.
C'est une histoire de croyance, hein. Il faut croire jusqu'au bout, il faut vaincre nos propres ténèbres et puis être Je crois que le secret, c'est être joyeux tout le temps, quoi. Essayer de transmettre cette joie et ce plaisir de cinéma et ce plaisir de faire des films.
C'est intéressant votre vocabulaire quand même, les ténèbres, la jouissance,
la joie. C'est un peu romantique, ben non, c'est bien. Je suis un éternel romantique.
Et ça nous fait revenir au rêve, le rêve qui est si présent dans votre cinéma, qui a d'ailleurs structuré bon nombre de vos courts-métrages. Yann Gonzalez, les rêves, les fantasmes, les hallucinations, quelle matière cinématographique est-ce que c'est pour vous?
Je crois que ça remonte à l'adolescence, aux musiques que j'écoutais, aux films que je voyais. Moi, je me suis toujours retrouvé dans cet univers un peu onirique et dans un cinéma de la marge qui proposait ça, notamment les films de genre, les films de Dario Argento, les films de Brian De Palma. Tous ont trait un peu au rêve. Et moi, c'est les premières images qui m'ont nourri et qui m'ont, je pense, qui m'ont construit aussi en tant que cinéaste. Et
l'image cinématographique, c'est pour vous une sorte de miroir de nos pulsions aussi, les plus intimes, les plus secrètes, les plus refoulées?
Oui, bien sûr. Et moi, je crois que c'est ça qui manque en vérité, qui me manquait en tout cas il y a encore quelques années dans le cinéma français. C'est cette idée de pulsion, cette idée d'érotisme, en fait. Pour moi, le cinéma, il est ontologiquement érotique, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la sensualité. J'ai envie qu'il y ait ce plaisir presque sexuel quand on regarde des images, quoi.
Alors, de quel désir précisément est-ce que vous nous parlez dans Un couteau dans le cœur, ce film en partie centré sur les meurtres très gore, ouais, d'acteurs du porno gay?
Quel désir, ouais. Un désir presque scopique. Pour reprendre pour presque citer De Palma, il y a ce plaisir de voyeuriste, de regarder un film à travers le petit trou de la serrure et puis prendre du plaisir avec.
Et puis à travers
sauf
des
que là, c'est
aussi,
le petit trou de la serrure, ça agrandit et on se retrouve devant, ouais, le grand écran du festival de Cannes.
Et le rêve, c'est aussi la métaphore, c'est le transfert, c'est la reconstruction. Et je me pose la question, de quoi ce couteau utilisé par le meurtrier est-il la métaphore? C'est une question naïve.
Ouais, je me suis pas posé la question. Non, pas vraiment, mais selon vous, c'est quoi?
Je sais pas. C'est qui est tout entière dans la métaphore dans cette émission. Vous la connaissez sans doute, Yann. C'est la culture et son actualité tranchante, incisive et toujours dans le plus simple appareil, c'est-à-dire à notre grand regret parfois, seulement avec sa bite et son couteau. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 17 mai?
Nous trouvons bien tout ce qui sert aux intérêts, au bonheur et au développement de l'homme, et mauvais tout ce qui va contre. Et c'est là la base absolument fondamentale de ce qu'on peut appeler notre éthique, enfin, ou même notre morale.
En Pléiade, Simone, 36 ans après Jean-Paul Sartre, sa contemporaine, Simone de Beauvoir rejoint enfin la prestigieuse collection Gallimard, 2 tomes, 3000 pages et 5 livres, dont Mémoire d'une jeune fille rangée. Le coffret qui paraît aujourd'hui rassemble les écrits autobiographiques de la femme de lettres et féministe à turban. Le projet ne contient pas le deuxième sexe, mais bonne nouvelle, car le manuscrit de ce texte vient d'être publié en facsimilé par les très chic éditions des Saint-Pères au Top Zer.
How's your head?
Oh, much better, thank you. A gull hit me, Mrs. Brenner, that's all.
Tippi Top, à 88 ans, Tippi Hedren, actrice mythique des oiseaux, a été choisie pour devenir la nouvelle égérie de la marque italienne Gucci, muse platine de Hitchcock. Tippi Hedren avait vu sa carrière ralentie après avoir accusé le réalisateur américain de harcèlement. Engagée avec les mouvements Time's Up et Me Too, elle avait pris la parole l'année dernière pour encourager les femmes à témoigner des violences à leur encontre. Rendez sa liberté à Liusha, à l'initiative du Pen Club, d'Amnesty International et d'un collectif de femmes françaises. Plusieurs dizaines d'artistes et d'intellectuels, dont J.M. Cuddy, Elisabeth Badinter ou Aurélie Filippetti, ont appelé publiquement les autorités chinoises à libérer la poétesse Lucia, veuve du dissident et lauréat du prix Nobel de la paix 2010, Lucia Obo. L'artiste est assignée à domicile depuis 8 ans, sans avoir jamais fait l'objet d'une condamnation. Soutien.
Je voulais savoir qu'est-ce que c'est Cannes, qu'est-ce qui se passe, c'est comment l'atmosphère, c'est quoi.
Alors aujourd'hui, Sophie, pluie de prix sur la croisette, le jury de la semaine de la critique, présidé par le cinéaste norvégien Joachim Trier, jury dont j'ai eu la chance de faire partie cette année, a récompensé hier le formidable Diamantino, comédie pleine d'audace, d'humour et de poésie, réalisée par le duo portugais Gabriela Brantes et Daniel Schmidt. Dans le même temps, nous avons aussi récompensé Félix Marito pour son interprétation habitée et gracieuse d'un jeune prostitué épris de liberté dans Sauvage, le premier film de Camille Vidal-Naquet, Chapeau les cocos. Félix Marito, qui s'avère être un acteur d'Un couteau dans le cœur, Yann Gonzalez, dans votre film également. Vous êtes mon invité, Yann, pour Un couteau dans le cœur, donc en lice pour la Palme d'Or. Entre nous, ça vous a surpris, cette sélection?
Oui, ça m'a surpris parce que ça reste un film étrange, beaucoup plus ouvert que le premier, je crois. Mais quand même, je pense que les spectateurs vont être surpris ce soir. Il va se passer des choses sur l'écran.
C'est l'histoire d'une femme amoureuse incarnée par Vanessa Paradis, mais c'est aussi une histoire de meurtre et une histoire de cinéma, à la fois érotique, gore et poétique. Comment est-ce qu'on trouve précisément un financement pour un film comme celui-ci? Je sais que pour le précédent, Les Rencontres d'après minuit, ça avait été extrêmement compliqué. Comment on fait?
Je crois qu'il y a une appétence de plus en plus forte en France pour le cinéma de genre. Donc il y avait puis je crois une liberté en fait qui s'est jouée dès le départ avec mon co-scénariste. Il y avait pas de limite, il y avait pas de frontières. On a décidé de se faire plaisir. J'ai l'impression que ce plaisir-là était contagieux en fait. En tout cas, c'est les retours de lecture qu'on a eu. Donc les gens étaient déconcertés. En même temps, il y avait une espèce de petit truc au fond d'eux qui se disait oh là là, j'ai envie de voir ça.
Oui, c'est ça. Quoi. J'ai envie de le voir. Est-ce que le fait d'avoir Vanessa Paradis dans le projet, ça vous a aidé?
Je pense, ouais, je bien sûr. Je pense qu'avoir une star, évidemment, ça aide. Puis on l'avait jamais vue dans un rôle comme ça. Mmh. Et puis, moi, il y avait ce désir très très fort de la filmer, comme une évidence dès que je l'ai rencontrée.
Et cette fois, dans quelle case est-ce qu'on a essayé de vous faire rentrer lors des demandes de subventions, Yann Gonzalez notamment? Parce que tout le monde devait être quand même bien embêté. Il y a un moment, il faut le définir le film. C'est comme ça que ça se passe, hélas.
Je sais qu'à l'avance sur recette, justement, on me reprochait, au contraire du reste des financements, ce côté cinéma de genre. Ils aimaient le côté un peu univers du porno, porno au travail, acteur porno au travail, etc. Mais dès qu'on s'approchait du tueur, ça leur posait problème. Il y a encore cette peur d'un cinéma un peu hybride en fait.
C'est d'autant plus intéressant que vous, ces catégories, ces codes, ces genres cinématographiques, en fait vous en jouez sans cesse dans votre cinéma. Et avec quel genre précisément vous avez eu l'impression de jouer? Parce que le cinéma de genre c'est un peu large.
Oui, bien sûr. Bah avec le cinéma d'horreur, très ouais. Précisément, avec les codes du cinéma d'horreur, avec les codes du slasher, du giallo, qui est le thriller italien des années 70, avec des tueurs à l'arme blanche. Donc oui, je me suis beaucoup amusé avec tous ces codes-là, toutes ces couleurs, et puis la musique aussi. Il y a un petit côté Morricone dans certains thèmes du film.
Vous diriez, Yann Gonzalez, que votre conception du cinéma a quelque chose à voir avec un art de l'hommage?
Ben c'est un hommage, mais j'ai l'impression que c'est un hommage intégré. J'ai pas envie. Enfin, quand on est sur un tournage, il y a tellement de choses, tout est tellement compliqué. Si tout à coup on pense aux grands maîtres qui nous ont inspirés, c'est mortel. On a juste envie de crever.
Et pourtant, vous en faites des fétiches. J'ai l'impression à certains moments, c'est une certaine conception de la mise en scène et de l'artifice cinématographique qui se met en place.
C'est des fétiches de l'inconscient. Mmh. Et j'ai l'impression que l'inconscient ressurgit spontanément en fait, quoi. Mais sans y penser.
Se peut-il que le cinéma soit un art du faux?
Oui. Moi, j'adore cette idée de l'illusion comme art cinématographique, et l'illusion qui transmet encore plus la vie que la réalité.
Plus de lyrisme,
plus de romantisme. On est dans un monde tellement dur, tellement noir. Moi, quand je vais au cinéma, j'ai envie d'entrer dans un monde, dans l'utopie d'un monde en fait, dans un monde rêvé. J'ai envie d'inviter des gens à faire partie d'un monde en fait quand je construis un film, et que les gens aient envie de vivre dans ce monde-là. Ça, pour moi, c'est la plus belle récompense.
Il est question de romantisme dans ce film qui raconte, on le disait, l'histoire d'une femme, Vanessa Paradis, dans le milieu du porno gay, alcoolique, excessive, rejetée par celle dont elle est amoureuse, qui est incarnée par votre actrice fétiche, Kate Moran. Et cette femme, incarnée par Vanessa Paradis, je crois qu'elle a vraiment existé.
Oui, c'est effectivement c'est la première productrice de porno gay qui a œuvré à la fin des années 70 et qui était connue pour son alcoolisme, son avarice. C'était une femme très dure qui humiliait ses acteurs en permanence et qui a fini, je crois, amputée d'une jambe, une septicémie, enfin une vie terriblement sordide.
Vous l'avez trouvée où cette histoire, on vous l'a racontée?
Non, j'ai entendu parler d'elle dans un dictionnaire de la pornographie écrit par Christophe Beer. J'ai entendu parler de cette femme et j'ai trouvé que c'était un personnage de cinéma incroyable. Après, je m'en suis vraiment éloigné parce que c'était trop dur, quoi. J'avais pas envie justement d'être dans cette réalité-là.
Vous présentez,
envie de l'emmener vers le fantasme.
Vous présentez à Vanessa Paradis ce personnage comme vous venez juste de le faire.
Ouais, non, j'en ai parlé autrement.
Ce qui la sauve dans le film, c'est son amour du cinéma en réalité, pour surmonter sa déception amoureuse, mais aussi l'angoisse liée à la disparition de ses acteurs, victimes les uns après les autres, on le disait, d'un tueur en série. Bah, elle tourne un film qui s'appelle Fureur anale, je crois, c'est un beau titre.
Oui, Fureur anale qui devient le tueur au mot par la suite dans l'intrigue du film.
Parce que c'est très drôle aussi, il faut quand même le dire aux auditeurs. Que lui apporte, à votre avis, son amour du cinéma à ce personnage?
Bah, tout à coup, c'est le cinéma passe aussi par quelque chose de sensuel, une matière qu'on peut toucher, la pellicule, le 16 mm, des messages qu'on transmet à même la pellicule, qu'on grave sur la pellicule. Donc l'amour charnel et l'amour du cinéma se confondent, et c'est ça que je trouvais beau dans ce
C'est une sorte de médium, c'est une sorte de langage, effectivement, j'ai l'impression.
Ouais, c'est deux langages amoureux, celui du cœur et du cinéma qui se mélangent.
Qui vous apporte quoi, à vous, le cinéma?
Le cinéma, je crois qu'il me permet de tenir. Je crois le cinéma et l'amitié, pour moi, c'est les deux choses qui m'aident à vivre.
On va reparler de tout ça, évidemment, et de pellicule aussi. On va commencer par chercher. Parce qu'on est comme ça, hein, ce matin, on cherche. On va chercher Garçon, tiens, avec Taxi Girl et Daniel Darc, en 1980, vous pensez bien. Parce qu'il y a quelque chose de cette ambiance-là dans votre film. Et que rien que d'en entendre les premières notes, moi, ça me plante un couteau dans le cœur. Parce que vous voulez, vous êtes sur France Inter, avec Yann Gonzalez. Vous écoutez Boomerang à Cannes.
Dernier arrivage de vedette.
Augustin Trapenard.
Ne le cherchez plus, il est à côté de moi. Quelque part entre Jean Genet et Winnie l'ourson. Version méditerranéenne, la bouille ronde et bonhomme du mangeur de miel, le cheveu court de l'éternel bagnard, le sourire jusqu'aux oreilles, chemise en jean remontée jusqu'au coude, Yann Gonzalez, invité de Boomerang pour Un couteau dans le cœur. Un film qui est une déclaration d'amour, on le disait au cinéma, comme en témoigne sa toute première scène. Il faut que je vous raconte, on est sur une table de montage, la pellicule défile en avant et en arrière, la matière de pellicule semble vivante. Quel sens est-ce que ça a pour vous d'ouvrir votre film de la sorte?
Je crois que c'est un hommage à la pellicule, à la matière de la pellicule, à l'érotisme de la pellicule. Moi, malheureusement, je suis pas du tout amoureux du numérique. Je trouve qu'il y a quelque chose de froid qui s'est installé dans le cinéma à cause du numérique. Et j'aime la vibration de la pellicule, j'aime le grain de la pellicule, j'aime le visage des actrices et des acteurs filmés en pellicule.
Vous êtes un fétichiste?
Non, je crois pas. Je suis un amoureux, mais pas un fétichiste.
Un nostalgique?
Un mélancolique.
Vous utilisez presque tous les formats, en l'occurrence, dans ce film.
Ouais, il y a du 16 couleurs, noir et blanc, du 35 mm. Il y a pas mal de formats. Il manque le Super 8 pour avoir toute la gamme.
Mais qu'est-ce qu'on a perdu, pour vous, du mystère de l'image?
Je pense qu'on a perdu du mystère, ouais, de la magie et de l'humanité. J'ai l'impression qu'on est dans une époque beaucoup plus froide que celle des années 70 ou 80. Et que, voilà, ces images sont aussi le reflet de notre époque. Et que moi, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus organique, en fait.
Est-ce qu'on faisait pas aussi un peu plus attention au plan, à la manière dont ils étaient éclairés, cadrés? Parce qu'on savait qu'on pouvait pas recommencer à l'époque. C'est la question que je me suis posée aussi.
Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai envie de garder ce côté cérémonie de cinéma et cérémonie de mise en scène. Donc, être très précis dans ma façon de filmer et le faire ressentir à toute l'équipe. Et d'ailleurs, il y avait cette attention portée au plan. Tout le monde était hyper attentif, comme dans un cérémonial, quoi. Et ça, c'était beau. On savait qu'il y avait peu de pellicules, qu'il y avait peu de prises possibles. Donc, il y avait quelque chose de précieux qui se jouait à chaque instant et qu'on dansait sur un fil. Et j'adore ça, danser sur un fil, c'est hyper anxiogène. moi, j'étais flippé comme un malade tous les jours. J'étais malade et en même temps, j'étais heureux, quoi. C'est vraiment une terre de contraste, le cinéma. Parfois, on se demande ce qu'on fout sur un plateau, qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on devrait changer de métier et le lendemain il se passe quelque chose de magique entre les acteurs, parce que voilà, les acteurs, c'est ce qu'il y a de plus beau sur un film, une rencontre entre des acteurs qui se sont jamais rencontrés et tout à coup il se passe quelque chose entre eux. Ça c'est merveilleux, quoi. Et il y en a eu beaucoup entre Vanessa et certains acteurs que tu allais chercher au théâtre ou dans la rue ou dans des clubs, une électricité comme ça qui s'est jouée.
En quoi est-ce que voir un film dans une salle de cinéma pour vous, c'est avant tout une expérience physique, Yann Gonzalez? Parce qu'il est question de ça aussi dans le film.
Ouais, c'est ce qui se passe sur l'écran, ce qui se passe dans la salle. Moi, je rêve d'un cinéma vivant où les spectateurs répondraient par des gestes, par des baisers à ce qui se passe sur l'écran.
C'est possible ça?
Ouais, ouais. Faire l'amour dans un cinéma, ça serait merveilleux.
Vous l'avez déjà fait?
Oui, enfin des petits attouchements, quoi, mais pas dans des cinémas porno, hein, je précise, mais voilà, des
c'est encore pire comme réponse, Yann Gonzalez.
Des MK2 à 9h du matin.
Non, ou, trop voilà. d'informations.
Ouais, pardon,
votre cinéma ne parle que de ça, hein, de peau, de chair, de désir, de corps. Et qu'est-ce que c'est l'érotisme pour vous?
L'érotisme, c'est l'essence de la vie. C'est embrasser quelqu'un pour la première fois. Pour moi, c'est une des expériences les plus belles au monde.
Ça tient qu'à ça?
Ouais,
un contact.
Crois, ouais. Ouais, un contact. Une langue.
Allez! Et les garçons, venez! Voilà! On se rapproche. On s'embrasse. On s'embrasse, Thierry! Oui. On s'attoquine. C'est bien, slip jaune! Voilà la patronne. Allez les cocos, on passe aux choses sérieuses. Dans deux minutes, je veux tous à poil et au garde à vous, plus raide que Giscard.
burlesque Giscard. Nicolas Maury, un formidable assistant à la mise en scène de films pornographiques, avant que la patronne Vanessa Paradis ne débarque dans Un couteau dans le cœur, Yann Gonzalez. Il y a quelque chose d'extrêmement réjouissant et de drôle dans tout ça. C'est lié à quoi, à votre avis?
C'est lié au plaisir de vivre, encore une fois, à tous les gens qui m'entourent et qui me nourrissent et qui m'inspirent. À l'envie de transmettre ça, la chance de d'être vivant et d'être entouré de gens merveilleux, quoi.
Mais sur ce type de plateau, dans ce type de cinéma, en l'occurrence porno, le risque quand même en choisissant cet univers-là, underground aussi de la fin des années 70, aurait été tombé dans quelque chose d'un peu glauque.
Ouais, ou graveleux, ouais. Moi, au contraire, j'avais envie, je trouvais ça encore plus subversif de donner envie aux spectateurs. Qui sont pas habitués à ce genre de cinéma, de faire partie de cet univers-là. Ça, c'est, et l'emmener par le rire, en fait.
Et quelle expérience est-ce que vous aviez de cet univers-là, justement, une expérience vécue par le prisme de livres?
J'ai vu quelques pornos des années 70 et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'innocent, de naïf en fait, qui me fascinait. C'est comme si des acteurs devant la caméra découvraient un médium pour la première fois et donc il y avait ce naturel à coucher ensemble, ce plaisir qui se transmettait devant la caméra aux gens qui regardaient le film. Et ça, je trouve que ça s'est perdu. Aujourd'hui, les images porno transmettent plus du tout la même chose. Donc, j'avais envie de retrouver cette innocence des premiers pornos.
Oui, c'est une manière de filmer les corps que vous interrogez aussi.
Oui, mais des corps qui ont vraiment envie d'être ensemble et qui font pas semblant.
Alors, quel regard précisément est-ce que vous portez sur la manière dont on filme les corps désirants aujourd'hui?
Ça, c'est vaste comme question.
Sur la place qu'il aurait faite peut-être au cinéma.
J'ai l'impression qu'on est dans une époque de plus en plus pudibonde et que malgré l'avalanche d'images porno qui circulent sur Internet et au cinéma, c'est comme si on était très très en retard par rapport au théâtre, par rapport à la littérature et que on s'auto-censurait en fait.
Et votre film répond à ça?
Ouais, je pense à un manque de ça, ouais.
Et à un contexte aussi qu'on voit bien, un contexte où il est de plus en plus compliqué de mettre en avant un corps de femme ou même un corps d'homme et un corps désirant.
J'ai envie de libérer quelque chose. J'ai envie qu'il y ait une ouverture avec ce film, que les gens se libèrent de leur tabou, de leur peur, et qu'ils aient envie de jouir eux aussi avec les acteurs de mon film.
Et sans pour autant le montrer nu, c'est ça qui est intéressant. Yann Gonzalez, celui de Vanessa Paradis, par exemple, le corps de Vanessa Paradis, il est pas nu dans le film, mais pourtant il y a quelque chose qui se passe sur son visage, sur son corps. Qu'est-ce qui se passe?
On sait bien qu'un visage est beaucoup plus érotique qu'un corps.
Non,
qu'un
ça sexe, c'est ce qu'on dit sur France Inter. Mais en vrai, pas forcément.
Ouais, mais on voit des choses. Elle a les seins nus sous son t-shirt mouillé. Voilà, c'est des choses, c'est des détails qui sont pour moi beaucoup plus érotiques que montrer tout à coup un sexe ou.
C'est le cacher montrer.
Ouais, cacher montrer, c'est deviner les choses, les apercevoir le temps d'un photogramme. C'est la première pulsion du cinéma.
Qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, dans la vie?
Qu'est-ce que je trouve beau? En ce moment, beaucoup de choses, parce que je suis heureux. Donc j'ai de l'appétit pour énormément de choses, mais voilà, ça m'arrive de pleurer devant un film, en lisant un livre. En faisant l'amour avec quelqu'un.
Un corps qui s'oublie?
Ouais.
Ça, c'est beau,
ouais.
Par exemple?
Ouais. Mais tout ça, pour moi, tout ça est complètement lié, en fait.
À votre film.
Non, c'est des plaisirs de la vie qui se rejoignent.
Qu'est-ce que vous aimeriez ce soir, à la suite de la projection d'Un couteau dans le cœur?
Moi, j'ai très envie de danser. On va faire une grosse fête et j'ai envie d'exulter. J'espère que le film va être bien reçu, surtout. Ça c'est ma petite peur intérieure.
Ça voudrait dire quoi, bien reçu?
Qu'il y ait une espèce de chaleur qui monte dans la salle.
Chaleur qui monte. On est donc là, Yann Gonzalez. Et bien que la chaleur monte, merci infiniment.
Merci beaucoup.
D'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle qu'Un couteau dans le cœur, avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran, entre autres, tous exceptionnels. Romane Boringer aussi est projeté ce soir à Cannes, en lice pour la Palme d'Or, verdict samedi soir. Le palmarès, ce serait bien quand même. Ce serait rock'n'roll. Tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça. I'm a troubled man, changed by the things I do. True, but it's funny how they all remember you. And I could be different, times are just something new. But giving everything up to be a happy man, gotta understand, blamed by the friends. Happy Man, Jungle sur France Inter. N'oubliez pas d'écouter le cinéma, la web radio de France Inter par exemple, avec aujourd'hui la masterclass de John Travolta à 18h. Moi personnellement, je ne la louperai pas.